de Noir, deuxième partie, eh ben nous allons faire un petit tour en Algérie.
Voilà, on va passer de l'autre côté de la Méditerranée. C'est pas fréquent que des romans se passent. Alors, c'est pas, ça nous arrive pas, c'est pas des traductions d'arabe, hein, c'est pas des romans qui viennent de l'Algérie, mais on a lu à peu près en même temps deux romans qui se passent dans deux villes différentes et dans des endroits bien différents, mais dont le sujet principal est l'Algérie.
Et qui sortent en ce début d'année.
Voilà, le français de Roseville, le mien, voilà, le livre dont je vais parler, sort dans deux ou trois jours. Donc, il va être disponible en librairie tout de suite. Et je pense que c'est à peu près la même chose pour le tien. Donc, le livre dont je vais vous parler, moi, il s'appelle « Les Français de Roseville ». C'est un livre d'un nouvel auteur. C'est son premier roman. Il s'appelle Ahmed Thiab. Ça paraît donc ces jours-ci à l'Aube Noire. Et le prix, 18,90 €. Donc, ce livre se passe pratiquement entièrement. Il y a une petite escapade à Marseille.
Il est donc écrit en français.
Voilà. Il y a une petite escapade dans le sud de la France, à Marseille et dans le sud-ouest. Mais en gros, c'est un livre qui se passe entièrement à Oran. Et pour le début, à Oran, en 2013, une ville, je cite, « plus méridionale que Marseille, qui détient, grâce à cette géographie favorable, un taux de comédiens de rue nettement supérieur. » Et donc, autre extrait, je recite, « le son va plus vite que la lumière. »
C'est joli.
C'est très joli. Et pour ça, je voulais citer, c'est au début, donc ça fait à peu près 50 ans que l'Algérie a eu son indépendance. Et en gros, on détruit beaucoup de choses. On détruit en particulier les quartiers populaires, pas mal de promoteurs. Et lors de grands travaux de rénovation, dans un quartier donc très populaire,
D'Oran,
deux squelettes sont découverts. Le légiste, les flics sont appelés. Le médecin légiste, Moss, affirme à Kemal Fadil, le commissaire. Donc on apprend à la quatrième de couverture que ce commissaire est appelé à revenir. Donc voilà, les deux squelettes, il s'agit d'un enfant et d'un adulte assassiné dans les années 60. De plus, l'enfant a gardé une croix avec des initiales, donc l'idée qu'il soit d'obédience catholique et pas musulmane. Et le flic va donc tenter de remonter l'histoire récente pour comprendre, évidemment, les deux assassinats qui ont été perpétués, on ne sait pas exactement quand, mais en tout cas, pendant la période terrible de la guerre d'Algérie, ou tout au moins à ces environs-là, entre 52 et 62. On navigue ainsi entre la ville algérienne à l'heure actuelle, avec des personnages assez truculent, la mère du commissaire, alors ça c'est un personnage étonnant, et puis son amante, qui est une migrante qui l'a sauvée lors de sa fuite clandestine. Et puis, on alterne avec Oran, donc dans les années 50-60, les Français colonialistes, riches propriétaires terriens, ou les petits blancs, comme par exemple Arthur Guillot. C'est un petit grouillot qui est venu travailler en Algérie pour faire fortune. Mais pour les Algériens, comme pour les colons, Arthur. Il sera toujours un étranger. Trop grand, trop blond, trop tout. Pas assez du pays, quoi. Donc, vous l'aurez compris, on est un petit peu à l'ombre d'Albert Camus. Et ainsi, le drame peut commencer. Comme dans la plupart des polars, le récit, comme je l'ai dit, alterne entre le passé et le présent afin de reconstituer les circonstances du meurtre et de l'enquête. Mais en filigrane, l'auteur lui-même, qui est né à Oran, explique, sans l'assener, en gros sa vision de l'histoire. Du passé, faisons table rase. C'est à la fois le commissaire et l'auteur qui le dit. C'est métaphorique. On rase un quartier, donc on élimine tout le passé physiquement. Et puis aussi, malgré son enquête et malgré le fait d'aller jusqu'au bout des choses, ce que pense le commissaire, c'est d'un autre côté, pourquoi exacerber les rancœurs passées, les sombres histoires, qui en gros ne peuvent que ternir la vie des jeunes générations, en Algérie, en France, même en Espagne. Kemal trouvera la vérité, mais à quoi bon, comme il le dit, charger les fils des tares de leur père. Ça aussi, je trouve que c'est une jolie expression. Plus prosaïquement, encore une fois, c'est le passé qui est éliminé à coups de bulldozer. C'est un premier roman, intéressant. Certes, avec cette fougue du jeune auteur qui va raconter beaucoup d'histoires, et un petit peu trop. Mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'il arrive à fixer des ambiances, des atmosphères, des destins, que ce soit dans les années 50-60 ou à l'heure actuelle. Et ça, c'est très appréciable, sans emphase, sans amphigourie. Donc, on attend le prochain en lui demandant de gommer un petit peu des petites histoires qui sont un peu à la marge. Voilà, on n'est plus à Orange, je crois.
Non, en fait, c'est un autre polar qui parle de l'Algérie. Celui-ci se passe de nos jours, en 2012 pour être précis, et il est écrit par un Allemand qui s'appelle Oliver Bottini. Il est traduit par Didier Debord. Il s'appelle « Paix à leurs armes », c'est un assez joli titre, et il est publié aux éditions Piranha, dans la collection Black Piranha. Alors le roman commence par l'enlèvement d'un responsable, d'un cadre d'une société allemande d'armement, Peter Richter. C'est un marchand d'armes donc. Il est kidnappé dans une résidence sécurisée, pourtant, du gouvernement algérien à Constantine. Il allait pour négocier sûrement. Bien évidemment, les autorités algériennes accusent tout de suite les terroristes islamiques. Mais pour Ralph Haley peut-être, qui est le chef de la sécurité de l'ambassade d'Allemagne, ça ne lui paraît pas évident. Plusieurs points du mode opératoire et aussi de la personnalité de celui qu'on l'a enlevé le font douter que ce soit ACMI, Al-Qaïda ou quelque autre résidu des mouvements des années 90 issus du FIL. C'est un flic et il va donc enquêter, même s'il est en pays étranger et il n'en a guère le droit, même pas du tout. Mais il veut sauver Peter Richter. Alors le récit se déroule ensuite à la fois en Algérie, où on suit l'enquête de Ralph, et aussi celle des services secrets algériens, et d'autre part en Allemagne, où on va être tour à tour avec la cellule diplomatique en charge de ce cas, puisque quand même il y a un éminent responsable d'une société allemande qui a été tué, et aussi avec les différents marchands d'armes, dont de juteux contrats avec l'Algérie sont en négociation, ou même certains sont carrément en voie d'être acheminés. Il y a aussi un troisième récit qui sous-tend les deux autres, qui fait un peu le lien, qui est celui de la vengeance personnelle que tente d'assouvir un jeune Algérien pour faire son deuil de la disparition de son père dans les années 90. Bon, je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est assez intéressant, mais je ne veux pas trop dévoiler. Alors le roman commence un peu lentement, de façon peut-être un petit peu trop journalistique, puis il finit par prendre son rythme et devient vite passionnant. En fait, l'auteur explique beaucoup de choses. Il est un peu didactique, mais il est vrai que l'Allemagne n'a peut-être pas la même histoire avec l'Algérie que nous. Et donc il y a des éléments qu'il raconte qui nous paraissent assez évidents à nous, mais qui le sont certainement moins pour les lecteurs allemands auxquels le roman est destiné au départ. Par contre, ça a un avantage, c'est que l'auteur, lui, n'a aucun affect avec l'Algérie, avec l'histoire de l'Algérie, comme pourrait l'avoir un auteur français, même un lecteur français d'ailleurs. Et du coup, il ne prend pas position, ou il prend des positions qui ne sont pas du tout...
Un point de vue différent, on va dire.
Voilà, c'est un point de vue différent, et ça, c'est très intéressant. À l'inverse, le lecteur français, lui, apprend pas mal de choses sur l'Allemagne. Des choses qu'on ne connaît pas forcément, le fonctionnement de sa diplomatie, le fait qu'il y ait des industries allemandes qui vendent des armes.
Ah, ça, on le sait. Hein.
À l'Algérie.
La France aussi. Hein.
La France aussi, c'est sûrement. Et à l'Algérie et sûrement à bien d'autres pays. On le sait peu aussi, mais il parle aussi beaucoup de ces émigrés algériens qui sont partis dans le pays frère socialiste qui était l'Allemagne de l'Est et qui sont restés après la réunification. L'auteur nous décrit une Algérie où la corruption règne, ça on le sait, mais aussi il nous décrit l'Allemagne comme un pays où les lobbyistes sont rois, et finalement, pour l'auteur, et les résultats sont que lobbyistes corrupteurs, finalement, c'est à peu près la même chose. De même façon, il nous montre que les méthodes des terroristes et celles des industriels de l'armement, pour venir à leur fin, en gros, ne sont pas si éloignées que ça. Les plus terroristes ne sont pas forcément ce qu'on croit. Pour corser un petit peu son histoire, il a intégré au roman deux beaux personnages de femmes, toutes les deux diplomates et intègres. L'une est allemande, c'est la chef de la cellule de crise, et elle va subir de plein fouet son inflexibilité. Et son intégrité.
Incorruptibilité.
Exactement, voilà, je ne voulais pas le dire parce que c'est un peu difficile à prononcer correctement.
C'est pour ça
que
je m'y suis prêt deux fois.
Voilà. L'autre, c'est une membre d'un ministère en Algérie, mais il se trouve qu'elle est aussi la maîtresse du flic allemand Ralph. Et sans que ça devienne ni du délit ni de l'arlequin, leur histoire d'amour est très jolie, puis elle raconte pas mal de choses. Ça permet de raconter pas mal de choses à la fois sur l'Allemagne, sur l'Algérie, et sur en fait le problème qu'entre diplomatie et trahison, parfois, c'est difficile de tenir sa route. Un autre atout de ce roman, et que moi personnellement, évidemment, j'ai vraiment aimé, c'est qu'on sent que Oliver Boutigny, il a été en Algérie, et pas seulement avec Google Maps. Il a aimé le pays, et il y a de très très belles descriptions de Constantine, d'Alger, et de la Kabylie, Tizi Ouzou, etc. Même un peu une descente dans le désert, et malgré l'état d'insécurité qui y règne, il raconte un pays qui est beau, et qui pourrait être agréable à vivre avec pas grand-chose. Et d'ailleurs, il évoque un impossible, ou du moins un improbable printemps algérien qu'il espère peut-être, sans vraiment...
Parce qu'ils sont quelques millions à l'espérer.
Voilà, mais bon, qu'il reste malgré tout quand même fort improbable. C'est donc une très belle découverte, à la fois d'un auteur, Oliver Boutigny, et d'une collection qui est encore assez nouvelle, et dont on n'avait encore pas parlé dans cette émission, Dons de Noir.
Alors, puisque tu parles de collection, je précise, parce que j'étais très vite, le livre dont j'ai parlé, donc Les Français de Roseville, Le Français de Roseville, c'est aux éditions de l'Aube, collection Aube Noire. Voilà. Je crois que j'étais un petit peu elliptique sur les éditions.
L'édition de l'Aube, qui est une édition de notre région.
Voilà, un petit peu de musique.
Petit peu de musique, donc 1962...
Oui, puisque c'est...
Voilà, c'est l'Algérie prenait son indépendance, et pendant ce temps-là, sans aucun rapport, je suppose, à Liverpool, les Beatles chantaient « I saw her standing there » au Cavern Club. Un enregistrement qui, écoutez, pas de très bonne qualité, mais qui est d'époque, qui a été enregistré à la Caverne, au Cavern Club même, et qui est ressorti il n'y a pas très longtemps. Donc prêtez bien l'oreille, les Beatles.
Well, she was just 17, you know what I mean. And the way she looked, way beyond compare. How could I dance with another? Oh, I saw her standing there. Well, she looked at me.
On va dire sans transition aucune, je vais vous parler d'un livre qui sort aussi ces jours-ci, qui s'appelle « Les salauds devront payer ». C'est aux éditions Liana Lévy et l'auteur en est Emmanuel Grand. Ce roman, il commence par une série de courts chapitres où l'auteur évoque rapidement, mais de manière très maligne et très intéressante, 20 ans, en gros de 1944 à 1964, la fin de l'histoire coloniale de la France, la mise en place de ce qu'on a appelé ensuite les Trente Glorieuses, grâce au progrès, l'industrialisation, etc., etc. Des fragments de discours, un bout au Congo, une petite partie en Indochine, une petite partie à l'Algérie, et puis les combattants, ceux qui ont cassé des Niakoué, puis des Arabes, et qui se retrouvent parfois à diriger le personnel des entreprises, car, comme l'explique un patron qui vient d'en embaucher un, la guerre, c'est le ferment de l'homme. Une autre bataille se profile. Nous avons basculé dans un nouveau monde où les maîtres mots sont production, expansion et progrès. Après cette introduction, nous entrerons dans la petite ville de Volingue. On est dans le nord industriel, les petites maisons alignées, toutes semblables, construites au moment du plein emploi. Dans cette région, comme dans bien d'autres, la misère a gangréné toutes les strates de la société, pourri les esprits en vidant les porte-monnaies. Les trafics se multiplient, faut bien gagner sa croûte puisque les usines ferment et délocalisent. C'est ici que survivent Pauline Leroy et son père, en compagnie de bien d'autres. Son père, il est ferrailleur. C'est aussi ici qu'elle mourra. Tuée par ceux à qui elle doit de l'argent? Par un de ses pourvoyeurs de drogue? Le commandant qui est appelé pour enquêter, qui s'appelle Buchmeyer, va en gros devoir creuser dans le tissu social complètement mité et décomposé de ce petit village. Dans la solidarité, l'entraide, l'appui des syndicats à l'usine, il y a beau temps que ça n'existe plus. Depuis, des haines, des rancœurs les ont remplacées et la violence est omniprésente. Enfin, on n'est pas en état de guerre, mais il y a pas mal de violence. La mort de Pauline n'est pas qu'un simple fait divers ou un règlement de compte entre petits trafiquants. L'enquête a certes beaucoup d'importance ici. L'auteur joue la carte du suspense, des fausses pistes, des rebondissements, pour tenir en haleine son lecteur. Mais pour moi, le propos est ailleurs. Et Emmanuel Grand développe aussi un roman noir social. Comment les têtes brûlées des derniers conflits français dans les années 60 se sont intégrées dans des entreprises, sous l'œil bienveillant des patrons, veillant à ce que les ouvriers ne puissent pas trop revendiquer. C'est pas nouveau, mais c'est intéressant à lire.
Ça rappelle les Pinkerton.
Le progrès technique, tu fais bien de le dire. Le progrès technique n'aura finalement pas servi à tous, loin de là. La violence, la délinquance, nous dit l'écrivain, trouve ses origines dans l'explosion du monde ouvrier et sa disparition. Des propos qui rappellent aussi le roman de Nicolas Mathieu, Aux animaux la guerre, dont on avait parlé l'année dernière, mais remontons aussi plus loin, tu parlais des Pinkerton, finalement le premier roman noir, Moisson rouge, d'Achel Hamet. C'est aussi bien ça. C'est quand même deux jolies références pour le deuxième roman de cet écrivain. Comme tout à l'heure, je vais mettre un petit bémol. Il semble que cet auteur, Emmanuel Grand, n'ait pas réussi dans ce récit à choisir entre les deux atmosphères, le roman noir ou le polar plus classique avec un côté page-turner. Ça va, je dirais, diluer quelque peu l'ambiance poisseuse, délétère et impeccable qu'il met au début du roman, qu'il instille dans cette introduction, et ça se délite un peu. Mais ça reste hautement recommandable. Donc, les salauds devront payer chez Lalla Lévy, Emmanuel Grand. Voilà, je crois qu'il est temps de nous quitter, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Donc,
chacun dans son coin.
Voilà, on n'a pas changé de formule. Chacun dans son coin avec un bon bouquin. Et puis encore plein de bonnes nouvelles pour vous tous. Au revoir.